auquel il faut résolument tordre le cou. Il y a des a priori sur le vécu charnel de la vie conjugale qui ne procèdent pas d'une vérité de l'amour, mais d'habitudes sociales ou culturelles qui lui sont parfois étrangères. La théologie du corps de Jean-Paul II nous invite à renouveler notre regard sur ces réalités charnelles, profondément charnelles et indissociables de la vie conjugale, et à les établir dans une lumière nouvelle. Et pour introduire ces questions très délicates et qui ne peuvent pas être abordées ni comprises sans l'aide de l'Esprit-Saint, je vous livre cette pensée de Jean-Paul II dans sa théologie du corps. L'encyclique Humanae Vitae nous permet de tracer une esquisse de la spiritualité conjugale. Voilà le climat humain et surnaturel dans lequel se forme l'harmonie intérieure du mariage. Cette harmonie signifie que les époux vivent ensemble dans la vérité intérieure du langage des corps. Et je vous propose d'aborder trois questions difficiles. D'abord celle du devoir conjugal. Ensuite celle du remède à la concupiscence. Et enfin celle du permis défendu dans les relations conjugales. Que n'a-t-on pas dit sur le devoir conjugal ? Et même écrit. J'ai trouvé ainsi dans un dictionnaire des quatre consciences, qui date, il est vrai, de 1714, pas moins de 56 situations recensées dans lesquelles on se demandait si en conscience l'époux ou l'épouse était tenu de rendre le devoir conjugal à l'autre époux. Pour rien ne vous cacher, les cas qui concernaient l'épouse étaient beaucoup plus nombreux que les cas qui concernaient l'époux. N'a-t-on pas été jusqu'à dire que toute épouse était tenue de se plier au devoir conjugal à la première sollicitation de son mari, sous peine de péché grave, au motif qu'elle exposait par ce refus son mari soit au péché d'incontinence, soit même à l'adultère. Bien commode, là, pour les maris qui peinent à maîtriser les pulsions de leur instinct sexuel. Et autant de raisons de ne pas tenir le devoir conjugal en très haute estime. On constate d'ailleurs que l'expression a pratiquement déserté les manuels de morale et on ne trouve pas d'article consacré à ce thème dans l'excellent dictionnaire de théologie morale dû à Mgr Brugès. Bref, le devoir conjugal semble enterré et il y avait peut-être d'excellentes raisons de le faire. Mais faut-il s'en réjouir si vite ? N'a-t-on pas un peu, comme sont réputés de dire les Anglais, jeté le bébé avec l'eau du bain ? Et n'y aurait-il pas un esprit du devoir conjugal comme il y a un esprit du devoir dominical ? Car voyez, dans le devoir dominical, si on ne considère que l'obligation formelle, légale, juridique que nous fait l'Église d'assister au moins une fois par semaine le dimanche à la célébration de la messe, on risque de verser dans un pharisaïsme étroit et finalement peu chrétien. Mais on peut également voir cette incitation de l'Église comme une forme de miséricorde accordée à notre faiblesse. C'est précisément parce que l'Église sait dans sa sagesse que le cœur humain est faible et que l'amour peut s'y refroidir par négligence, par fatigue, par paresse, qu'elle nous fait cette obligation.